Chapitre 28. Depuis son coup de fil au bureau passé grâce à l'un des téléphones de l'hôpital, Florence était déboussolée. Elle n'était pas certaine d'avoir saisi. À l'autre bout de la ligne, Einstein lui avait parlé du décès d'André Escrémieux dans les locaux du 36, de l'IGPN, d'audition. Il lui avait demandé de ne pas rentrer avant le déjeuner, le temps que les bœufs carottes quittent les lieux. Le père de Delphine mort à la crime? Un suicide? Comment un tel drame avait-il pu se produire avec des gars aussi professionnels que Titi ou Le Glaive? C'était surréaliste. Elle resta encore quelques heures auprès de Delphine, puis, aux alentours de midi, se rendit à la gare d'Orsay. La ligne du RERB longeait l'hôpital. Elle attrapa le premier train en direction de la capitale et se réfugia au fond d'une rame. Elle était glacée, non pas à cause de la température et des courants d'air, mais à cause des annonces d'Einstein et surtout des propos du médecin. Le cœur à moitié fichu, la langue noire et nécrosée. Elle repensa au cercueil sans griffure. Était-il possible qu'on ait enterré la jeune femme alors qu'elle était morte? Comment les morts pouvaient-ils revenir à la vie? Florence n'y comprenait rien, mais une chose était certaine. Vu son état, Delphine n'était pas prête de leur expliquer quoi que ce soit. L'inspectrice descendit à Saint-Michel-Notre-Dame, acheta un sandwich jambon beurre qu'elle avala en rejoignant le quai des Orfèvres. Un énième repas pris sur le pouce, mais elle s'en fichait. Depuis le début de la procédure de divorce, sa vie ne ressemblait plus à grand-chose. Elle ne dormait plus, avait abandonné les cours de musique, mangeait n'importe quoi, buvait pas mal de vin le soir en compagnie de Serge. Quant à sa vie sexuelle, un véritable désert. Le spectacle qu'elle découvrit en arrivant au bureau lui fit croire à une mauvaise plaisanterie. Santucci, debout, marqueur à la main, devant le tableau où se trouvait généralement son chef. Einstein, Charcot, Le Glaive et Serge, face à lui, arborant des gueules de prévenus qu'on aurait enfermé toute la nuit dans une cellule de garde à vue. Le Corse lui adressa un pâle sourire. Mais même quand il souriait, sa barbe de légionnaire et sa cicatrice en forme de faucille sous l'œil droit ne chassait en rien son air sévère. Ah, Ferriot, tu tombes bien. Vas-y, installe-toi. Elle s'avança dans la pièce, incrédule. Je me suis trompé de bureau, là. Où est Titi? Sûrement rentré à la maison, ou à la limite en train d'établir ses quartiers à l'étage des morts. L'étage des morts. C'était ainsi que ceux de la crime surnommaient l'état-major, où s'agglutinaient plus de 300 administratifs alignés derrière des fax et des téléphones. C'est un gag? Lâcha Florence. Le Glaive lui transmit en deux mots les conclusions de l'IGPN. La tournure prise par leur enquête en une nuit était désastreuse. Il vivait un cauchemar éveillé. Florence s'affaissa sur le canapé, abasourdie. Titi mis au placard, jeté comme un vulgaire balai.
« Je n'ai pas le temps de tout recommencer de zéro avec mon groupe, » fit le Corse. « Il va donc falloir cohabiter. Ça vous fait chier, moi aussi, mais c'est ainsi. On va la lever, cette affaire, et sans bavure cette fois. »«
Sans bavure ?» grogna Serge. « C'est toi qui dis ça ?»
Alors qu'il se tenait jusque-là, tout au fond, appuyé dans un coin, il s'approcha de ses coéquipiers et s'adressa à Charcot, le prenant à témoin.
« Tu sais ce qu'il a fait, ce mec, du temps où il bossait à la brigade mondaine ?»
Charcot osa à peine secouer la tête.
« Il a foutu l'un des indiques de Titi derrière les barreaux, bordel. Tout ça pour se faire mousser auprès des huiles. Son indique prostituait des filles de même pas 18 ans, » répliqua Santucci. « C'était une ordure, indique ou pas. On avait pour ordre du chef de la mondaine de faire le ménage, alors on a fait le ménage. On touche pas aux indiques, c'est la règle. » Tout comme on ne pique pas une enquête à l'astreinte, ne joue pas ce jeu-là, Amandier. On a tous des choses à se reprocher, alors ceux qui ne veulent pas être là prennent la porte. Pour les autres, on ne perd plus de temps, je définis les tâches et on avance. »
Charcot ne disait rien, mais la rage le gagnait. Titi n'avait pas mérité un tel sort. Il avait sauté pour les protéger, c'était tellement injuste, tellement dégueulasse. Serge, lui, cogna du poing contre le dos du canapé. Il se dirigea vers son bureau et se mit à lire un magazine, s'allumant une cigarette par la même occasion. Le Corse l'ignora et reprit là où il en était avant l'arrivée de Florence.
Aux dernières nouvelles, André Escrémieux s'est empoisonné au thémique, annonça-t-il. C'est un pesticide qui se présente sous forme de petits grains noirs. Il s'attaque au système nerveux et cardiovasculaire en quelques minutes. Radical. Sa femme, sous le choc, a été hospitalisée à Bichat, mais il va falloir lui poser d'autres questions. Quant à la fille, Ferriot, tu reviens de là-bas, ce que j'ai compris. Alors on t'écoute.
Florence croisa les yeux noirs de Serge, qui l'incitait à la fermer. Mais détruire la dynamique du groupe ne ramènerait pas Titi. Ainsi, elle répéta les propos du médecin, ce qui plongea ses collègues dans la plus profonde incompréhension. Amandier s'était arrêté de feuilleter son magazine. Quant à Santucci, il sembla triturer tout ça sous son crâne. Même si elle ne l'appréciait pas, Florence connaissait ses qualités de flic.
« D'accord, d'accord. Morte puis vivante, tu dis.
et incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Merde. Il réfléchit, le marqueur entre les lèvres. Chaque chose en son temps, reprit-il. Je vais relancer la toxico qui nous sort au moins quelque chose sur le produit qu'on a pu fourrer dans l'organisme de notre cadavre X, et donc de Delphine Escrémieux. Ce truc m'a l'air d'être une belle saloperie. Il avait fixé à l'aide d'un aimant la photo de Delphine gamine, trouvée parmi les autres enfants. Il tapa sur le papier glacé du bout de son feutre. Faut creuser du côté du père. Si j'ai pigé, on a une histoire de cambriolage datant d'il y a 2 mois, c'est ça? Les clichés des mômes nus viendraient de chez lui, selon vous.
Très probable, répliqua le glaive après un temps. Possible que notre méticuleux ait été au courant de l'existence de cet album perso. Encore une fois, aucune porte n'a été forcée, c'est sa signature.
Comment il entre?
Avec un double des clés ou en trafiquant les serrures. En tout cas, le cambriolage ouvre 2 pistes. Soit le méticuleux est lui-même pédophile et il voulait à tout prix récupérer ses éléments à charge, soit, piste plus plausible, il a été une victime d'Escrémieux quand il était jeune.
Et il s'en serait pris à Delphine Escrémieux.
Pour atteindre les parents. Le père responsable, la mère qui n'a rien vu ou qui s'est mis des œillères. Leur fille ne serait que l'objet malheureux d'une vengeance. Pour le père et la mère, la laisser vivante dans cet état est sans doute un supplice bien pire que sa mort. Une longue et douloureuse punition.
Santucci approuva.
Ce ne sont que des hypothèses, mais elles se tiennent. Et l'autre, le cadavre X?
On ne sait pas.
Tant qu'elle restera anonyme, on sera coincé, et elle peut le rester longtemps.
Un silence, puis la voix de Florence.
Delphine était rasée de haut en bas. Le cadavre X a eu le sexe et les seins brûlés. Charcot l'a dit, il y a quelque chose de sexuel là-dedans. Le tueur s'est visiblement servi de God pour violer Delphine. Il a peut-être un dérèglement d'ordre sexuel, une peur quelconque ou le dégoût du coït. Femme damnée de Baudelaire parle de sexe, de transgression, de secret à cacher sous peine de devenir le rebut de la société. Tout ça, mis bout à bout, peut coller avec une ancienne victime de pédophilie, encore traumatisée.
Santucci alla chercher l'enveloppe contenant les photos des enfants.
Va falloir m'accrocher ces clichés au carré, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Si ça remonte à plus de 20 ans, on a peu d'espoir de les identifier, mais je veux voir ces visages chaque fois que j'entrerai dans ce bureau. Notre tueur est assez tordu pour avoir glissé sa propre photo dans l'eau. Et on arrête de l'appeler le minutieux, c'est juste un boucher.
C'est le méticuleux, fit Florence, pas le minutieux.
Et méticuleux, il l'est bien plus que tu ne le crois. C'était un bon surnom, c'est quoi ta proposition?
Pas de proposition. Appelez-le le salopard, le fumier, mais arrêtez de l'appeler le méticuleux. Ce n'est qu'une ordure.
Bon, sinon à part ça, le chef change, mais pas les méthodes. On va reprendre ensemble chaque élément du dossier pour que vous me briefiez. Je ne veux rien rater.
Il se tourna vers Einstein, puis Amandier.
Dès demain, vous deux, perquisez au domicile des Escrémieux. Faudra rapatrier la paperasse du père, voir s'il n'y a pas d'autres trucs immondes à dénicher, tenter de comprendre. Était-il un détraqué isolé ou faisait-il partie d'un réseau? Pourquoi a-t-il conservé ses photos? Pour les ressortir de temps en temps et s'astiquer en repensant à la belle époque? Est-ce qu'il a fait du mal à d'autres mômes plus récemment? Autrement dit, est-ce qu'il était encore un prédateur sexuel en activité? Je sais que ça va être coton, mais il va aussi falloir se pencher sur cette histoire d'hôpital incendié où il a exercé. On doit se donner une chance de retrouver ses collègues, d'associer des noms à ses gamins.
Il pointa ensuite son index vers le glaive.
Il reste des auditions à mener, on poursuit. Je veux tout au propre, bien rangé, bien classé. Et toi, Ferriot, tu te rapprocheras de la mère. Je me fiche qu'elle pleurniche ou qu'elle soit en dépression au fond d'un puits à l'hôpital. Fais-la parler. Elle pourra te renseigner sur le passé. Adresse, fréquentation, confrère du mari, ce genre de choses.
Amandier poussa un soupir bruyant.
On est un peu à cran, là. Nous écrase pas de boulot et laisse-nous du mou, d'accord? Ça pourrait mal se terminer, sinon.
Mal se terminer, c'est-à-dire?
Mal se terminer, c'est tout.
Vous avez déjà l'après-midi pour vous remettre de vos émotions. Et puis toi, tu n'as qu'à rentrer te coucher le soir au lieu de vider des bouteilles de vin ici. Tu verras bien que ça peut faire. On va rétablir des bonnes règles désormais.
Amandier dressa un doigt d'honneur dans sa direction sans qu'il le voie. Charcot, quant à lui, toujours assis, mit sa fierté de côté pour l'interpeller. Le Corse l'avait royalement ignoré, et Franck brûlait d'envie de se tirer de ce foutu bureau.
Et moi, je fais quoi demain?
Santucci le considéra enfin, mais comme un renard observerait une poule.
Ah, toi, le bleu, c'est vrai.
Il fit mine de réfléchir. Le salopard.
On m'a demandé de garder un œil sur l'affaire des disparus. Brossard t'avait confié un travail aux archives, il me semble.
Franck vit la jouissance briller dans les iris noirs de son nouveau chef. Le glaive alla vite chercher le gros tas de tracts qui reposait à côté du Minitel et le colla entre les mains du jeune inspecteur.
Il t'avait aussi missionné pour distribuer ces tracts.
Dans la foulée, il s'adressa à Santucci.
C'est très important. Pour le moment, on sèche sur les liens qui pourraient exister entre Vasquez et Lampin. Peut-être qu'il n'y en a pas, que c'est le hasard qui les a réunis, mais hors de question de laisser tomber cette piste.
Ça nous aiderait beaucoup de retrouver d'autres destinataires du bouquin de Baudelaire. » Le glaive coupa court à d'éventuelles protestations en poussant Charcot vers la sortie. « À partir de demain, tu te farcis tous les commerces. Vu la zone à couvrir, tu fais ça 2-3 jours dans les arrondissements de Vasquez et de Lampin, ainsi qu'aux alentours. Ratisse large, tu verras que Paris n'aura bientôt plus de secrets pour toi. Et reviens-nous en forme, on doit tous être à fond sur le dossier. Allez, va prendre une douche, t'en as besoin. T'es pas le seul, d'ailleurs. » Charcot attrapa son blouson au passage, et l'énorme paquet de feuilles serré contre lui s'engagea dans le couloir sans même un regard pour ses collègues. Il avait les nerfs à vif. Le glaive lui sauvait la mise et l'éloignait du volcan le temps que le feu s'éteigne. On leur avait arraché un membre de leur famille et il allait falloir du temps pour s'en remettre. Franck éprouvait de la peine pour Titi. Il le chercha au deuxième étage, dans la cacophonie des téléphones et des fax. En vain. Une fois dehors, il se tourna vers le bâtiment et eut un pincement au cœur. Il comprit que cet endroit où il avait fourré les pieds, le 36 quai des Orfèvres, n'était pas qu'un lieu de prestige. C'était une arène sanglante. La fosse aux lions.